entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo.
Monsieur Gratouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients.
Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 8 décembre 2016. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Delphine.
Alors ce soir nous allons vous parler de pollution, vous l'avez senti, peut-être que ça vous gratouille. Nous parlerons aussi de publicité et de jeunesse, nous parlerons de justice, spectacle et de justice de classe, ça sera Laurent qui va vous parler de ça. On reviendra un petit peu sur Lyon avec les embrouilles au Parti Socialiste, on parlera aussi un petit peu de Gérard, hein, Gérard Collomb. Nous irons faire un petit tour avec Laurent du côté de la France, de la Syrie, d'Israël et de Pologne pour parler des fachos, des autoritaires et des réactionnaires. Et puis nous vous parlerons de Marossa, le film de Briante Mendoza que nous avons vu la semaine dernière. Mais alors aujourd'hui, journée du 8 décembre, journée de l'Immaculée Conception et journée de Fête des Lumières. Tu es content, Laurent, d'avoir traversé ta petite barrière juste avant qu'elle ne soit bloquée tout à l'heure?
Oui, juste au-dessus de Radio Canu, nous sommes dans la fan zone des Lumières. Donc cette zone policière où la liberté est
réduite,
voire entravée par ces personnages habillés en bleu foncé, voire en kaki, qui nous font un petit peu peur, mais qui nous ont laissé passer, puisque nous sommes passés avant la fermeture officielle à 19h, avant les contrôles qui vont avoir lieu, puisque nous sommes dans une zone soi-disant ultra sécurisée.
Oui, alors tu parlais de bleu, hein, on a vu les CRS, il y a les policiers municipaux, il y a la BAC, il y a le RAID, il y a des militaires, il y a des sociétés privées aussi qui ont été engagées. Donc il y a du monde et il y a même un drone qui a été prêté par l'armée de l'air. Oui, un drone qui diffuse des petites images en temps réel au PC sécurité de la préfecture du Rhône. Alors les parkings du centre-ville sont fermés. Ça c'est juste le bon côté finalement de cette fête aussi, c'est qu'il y a moins de circulation, pas de circulation du tout sur la presqu'île le soir.
Ce qui est quand même beaucoup plus agréable.
Oui. Alors nous reviendrons un petit peu sur cette pollution. Il y a des dispositifs anti-bélier qui sont mis en place. Bienvenue, chers touristes. Bienvenue dans une ville polluée et sécurisée. À fond. On vous souhaite une belle fête des Lumières. Puisqu'aujourd'hui, donc, je vous le disais, Immaculée Conception, salut à toi, Marie. Alors, Marie, je l'ai trouvée plein de fois un petit peu dans l'actualité. Alors, on pourrait peut-être rappeler que le 8 décembre 1955, est publié le texte qui adopte le drapeau du Conseil de l'Europe. Je vais y arriver. Alors, j'ai un petit peu cherché dans certains sites plutôt de croyants, comme la Postalette à Thérèse.fr. Alors là, on n'y voit pas une coïncidence en fait entre le fait que le drapeau ait été adopté le 8 décembre 1955 et l'Immaculée Conception. Il y a du sens derrière, puisqu'il y a aussi la petite histoire du drapeau. Ce drapeau a été présenté par Arsène Hetz, qui était lui-même fonctionnaire au Conseil de l'Europe. Et en 1950, on lui a demandé de participer au projet du drapeau qui devait symboliser la réunion de ces États fondateurs. Et bon, il y a eu moult choses dans cette petite histoire que je vais pas vous raconter, mais en tout cas, Arsène Hetz se serait inspiré d'une médaille catholique, la médaille miraculeuse de la rue du Bac, avec les 12 étoiles de la Vierge, et donc il a créé un drapeau bleu, la couleur de la Vierge, avec les 12 étoiles jaunes. Arsène Hetz aurait confessé cet hommage un peu plus tard. Aujourd'hui, on trouve tout un tas de textes, pas loin des théories du complot, comme tu aimes beaucoup, qui associent donc cette union comme la force de l'Union européenne aujourd'hui, avec la Vierge Marie et donc avec la croyance. D'ailleurs, on pourrait noter que la procession au flambeau a été maintenue aujourd'hui à Lyon. Elle est conduite comme d'habitude par le cardinal Barbarin, que tu aimes beaucoup, oui. Laurent.
Il est grand ami de cet prêtre qui aime les petits garçons et les petites filles.
Et la messe des jeunes a pour thématique ce soir d'un même cœur dans la prière avec Marie. Oui, Marie toujours, c'est important. Et alors, j'en ai trouvé d'autres. Hein, Marie, est-ce que tu te souviens de Sylvain Durif? Sylvain Durif, je vais te donner peut-être un petit indice. Bucarec, petit village de l'Aude, en 2012, 21 décembre, l'apocalypse. Il s'était fait connaître à cette époque. Il avait annoncé la fin du monde pour le 21 décembre. Il s'était présenté en gourou. Alors, il fait des vidéos. Moi, je sais pas bien quoi en penser de ce Sylvain Durif. Et si je vous parle de lui, c'est que il est convaincu d'être la réincarnation du Christ cosmique.
C'est pas le même Christ, c'est un autre, est cosmique.
Il vient du cosmos, cosmos. Et il a été abducté par un des vaisseaux de la Vierge Marie. Abducté, ou en ufologie, vous savez ce que c'est?
Non.
C'est le fait d'être enlevé par des extraterrestres dans leur vaisseau.
C'est le truc le plus sympa qui puisse vous arriver.
Et donc il est porté quand même par la Vierge Marie. Et il se présente donc aux élections présidentielles pour, je cite, apporter la paix sur Terre et dans le cosmos afin d'instaurer le paradis. Un projet en soi, présidentiel, simple, concis.
Qui est plus original que les autres.
Ah, surtout qu'il a l'aide de la Vierge Marie, a priori, enfin en tout cas avec les vaisseaux, tout ça. Et puis, Sainte Vierge, une statue que tu vas voir disparaître, puisque le tribunal administratif de Grenoble a, dans son jugement en date du 24 novembre, pour la deuxième fois, ordonné le déplacement d'une statue de la Vierge portant l'inscription Notre-Dame du Léman veille sur tes enfants, qui avait été installée en août 2011 dans un parc communal de Publié, 6500 habitants. Alors, il y avait déjà eu un premier jugement en janvier 2015, mais le maire d'hiver gauche, Gaston Lacroix, avait choisi de ne pas appliquer le jugement en se basant sur le fait qu'il attendait une injonction des services de l'État et donc il n'avait pas bougé. Alors, le tribunal aujourd'hui menace la commune d'une astreinte de 100 euros par jour si la statue n'est pas retirée du domaine public communal sous 3 mois. Il faut dire que la statue avait été installée sans débat au conseil municipal. C'est la commune qui l'avait achetée pour 23 700 euros. Tout de même, je vous rappelle, 6500 habitants. Ça fait quand même une belle petite somme chacun et chacune. Alors, c'est un habitant accompagné dans la Fédération de la Libre Pensée qui a porté l'affaire en justice. Le maire avait finalement, après le premier jugement, cédé la statue à une association religieuse locale. Et puis, il avait espéré vendre aussi les 36 mètres carrés où la statue est est installée pour que ça sorte du domaine public. Sauf que le tribunal administratif de Grenoble avait rétoqué cette solution. Voilà, une petite Vierge Marie en moins. Et puis ça, c'était... c'est pas drôle. C'est parce que c'est vraiment pas bien. C'est à Lucerne, en Suisse. Il y a des vilains et des vilaines qui peut-être étaient un peu avinés, comme je l'ai lu dans la presse suisse, qui se sont amusés à réarranger, excusez-moi, les personnages d'une crèche de Noël dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Et donc, Marie s'est retrouvée en position de faire une fellation.
Oui. C'est pas très bien.
Non, c'est pas très bien.
Après, Marie, on sait pas les pratiques sexuelles qu'elle avait.
Et je te rappelle qu'elle est hors du péché quand même pour les catholiques.
Hein.
C'est pas le cas pour les orthodoxes où elle a connu le péché originel. Puis j'ai trouvé une autre histoire de crèche qui va peut-être te plaire, celle-ci. C'est à Laudun-l'Ardoise. Depuis jeudi dernier, il y a une crèche au milieu des sapins de Noël dans le hall de la mairie. Sauf que ce n'est pas une crèche avec le petit Jésus, la Vierge Marie et les petites choses comme ça. Il s'agit d'une crèche républicaine. Les santons ont pris la place et les santons en fait représentent des maires. Alors c'est le maire Philippe Pécou qui est auto-parti Parti Socialiste, qui explique faire un pied de nez. Il n'a pas bien apprécié la décision du Conseil d'État au sujet des crèches. Il trouve que c'est très ambigu et que c'est, ça ne lui plaît pas. Donc il s'est amusé à monter cette petite crèche républicaine avec des maires. Alors, il a un regret quand même. Lui-même, il est passionné des santons, donc il a voulu aussi mettre les santonniers en avant. Mais donc il a amené ses propres petits santons, mais là où il était un peu déçu, c'est qu'il n'a pas trouvé de femme mère. Il paraît qu'il n'y a que dans les Cévennes qu'on en fait, mais que ça n'allait pas avec la région d'où il vient. Donc voilà, mais une petite crèche, je me suis dit quand même que ça te plairait. Et puis, pour terminer, je vous rappelle que demain, 9 décembre 2016, c'est le jour anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Je sais pas, buvez à la santé.
Allez, au petit père Combe, Émile Combe, qui est le porteur de cette loi en 1905.
C'est ça.
Il y a une rue, Émile Combe, à Lyon, dans le 8e. Je sais pas s'il y en a beaucoup, il devrait y en avoir beaucoup. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup.
Alors, on va parler un petit peu pollution, puisque, comme je vous le disais, peut-être que ça vous gratille dans la gorge. En tout cas, moi, c'est le cas. Vous avez entendu que, finalement, ça y est, le préfet a décidé de mettre en place la circulation alternée à Lyon et à Villeurbanne, demain. Ça, déjà, tu es content? C'est que
non,
demain.
Ça me fait juste rire.
Donc, c'est les véhicules impairs qui pourront circuler. Alors, sur Paris, on a lu et entendu la même chose hein, tous les deux. C'est que Air Paris dit qu'en fait, il n'y a pas d'impact sur la pollution parce que...
Personne ne respecte.
Et voilà. Et que, donc, du coup, il n'y a pas de réduction du trafic automobile de manière souvent importante.
Au contraire, d'ailleurs, ils ont noté plus d'embouteillages ces deux derniers jours que les jours précédents. Ça veut dire que c'est l'inverse. Les gens ont plus sorti leur voiture, faire un pied de nez en disant « Nous, on aime la pollution, on vous emmerde. »
Et puis, tu as noté, comme moi, la réaction de monsieur Christophe Boudot.
Ah oui, oui.
Et l'UFM.
Je le connais pas bien, mais je pense que je vais monter le fan club.
Ah bah, moi, je le lis souvent dans la presse, qu'il a toujours des idées assez intéressantes.
Ah ouais. Moi, je suis pas bien le FN local et je devrais, hein, parce qu'il y a des perles. Il y a des perles.
Et alors, il a parlé de recettes inutiles et liberticides dans son communiqué. Il dit que ça sert à rien, puis qu'en plus, ça touche que les pauvres, globalement. Non, je synthétise un peu rapidement, mais c'est un peu ça, quand même, son discours. Et qu'on s'en prend toujours au même. C'est du populisme, un petit peu, son discours. Hein.
Du coup, faut savoir que ça ne touche pas que les pauvres, puisque là, ce n'est pas une mesure sur la date de la voiture, etc. C'est une mesure sur le numéro qui est attribué par hasard. Hein, qu'on ne choisit pas le numéro pair ou impair sur sa plaque d'immatriculation. Donc, c'est complètement aberrant ce qu'il dit. Alors, il est allé plus loin, hein, puisqu'il a... Bon, bien sûr, il a accusé... il a dit, mais il ne faut pas oublier les grosses entreprises polluantes du sud de Lyon, ce qui est une réalité. Mais ce n'est pas le principal de la pollution à Lyon, hein, quand même. Les chauffages urbains, alors ça, c'est trop facile, le chauffage. C'est assez drôle parce que les pics de pollution, on en a à deux périodes. Hein. On en a en été et en hiver. C'est les mêmes, à peu près la même ampleur, même si là on est en train de battre des records. C'est la même ampleur parce que c'est le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a un anticyclone, donc peu de circulation d'air, et on a des polluants qui s'évacuent pas, parce que d'habitude on pollue à mort et on balance la pollution ailleurs, dans les campagnes autour. Hein. Et là, elle reste, la pollution que les Lyonnais créent. Non. Et bizarrement, l'été, on ferme notre gueule, on dit rien sur le chauffage. Ben, forcément, personne ne se chauffe l'été. Et bizarrement, l'hiver, quand il y a des pics de pollution, c'est la faute au chauffage. Bon, alors faudrait essayer d'être un petit peu cohérent, même s'il y a différents... le chauffage peut intervenir, j'ai même entendu des imbécilités en disant que le chauffage au gaz crée des particules, ce qui n'est pas vrai, c'est une combustion qui est plutôt bonne, hein, contrairement au fioul, contrairement au bois, contrairement à d'autres choses, et que le chauffage au gaz avec le chauffage électrique, c'est les modes les plus répandus quand même dans l'agglomération lyonnaise. Donc bref, c'est pas le chauffage qui est principal responsable des particules et de la pollution, c'est bien les transports polluants à moteur à explosion, essence et diesel, même si les diesels sont plus polluants, mais l'essence aussi, hein, s'il ne faut pas non plus d'un seul coup reverdir les moteurs à essence. Il est allé plus loin, cet élu d'extrême droite, puisqu'il a dit que pour lui, la solution, c'était de mettre en place la voiture propre. Et là, comme d'habitude, je me marre. Donc, il a laissé entendre la voiture à hydrogène. Donc,
j'ai lu ça.
C'est un grand moment. Donc, l'hydrogène, il n'y en a pas dans la nature. Hein. Il faut le fabriquer. Donc, comment on le fabrique? On casse la molécule d'eau, hein, on fait une électrolyse et on récupère de l'hydrogène. Et après, on la met dans les voitures. Donc, déjà, il y a un intermédiaire. Donc, on a des rendements de merde, hein, parce que on a des pertes tout au long de la chaîne énergétique. Mais le plus drôle, c'est que pour casser l'hydrogène, il faut l'électricité. Parce que pour l'instant, on le fait que comme ça. Et pour produire cette électricité, il faut du polluant, puisqu'en France, le renouvelable, c'est 12 à 13%. Voilà. On devrait tendre vers 20% un jour, mais on ne sait pas quand. Donc bref, sa solution miracle, c'en est pas une. Mais c'est une solution qui est préconisée par beaucoup, parce que c'est un truc très totalitaire, très fasciste, de dire, en fait, il faut que tout passe à l'électrique. Parce que l'avantage, pour ceux qui utilisent ces transports-là, c'est que ça ne pollue pas localement. C'est qu'on balance la pollution là où on n'en a rien à faire. Hein, puisque l'électricité, elle n'est pas produite dans les villes, elle est produite en dehors des villes. Donc, toute la pollution engendrée par la production de l'électricité, la pollution radioactive pour le nucléaire, la pollution des transports des matières radioactives, hein, qui, elles, émettent du CO2 et des polluants bien pourris, les pollutions atmosphériques émises par les centrales thermiques et toutes ces choses-là, c'est en dehors des villes. Et pas là, on va. Donc, c'est une sorte de déplacement de la pollution. On va mettre la pollution chez les autres et on utilise l'électricité produite. C'est un truc vraiment hypocrite, vraiment tout sauf réglo, hein, de faire ça. Mais c'est ce qui est préconisé par l'extrême droite. Alors, c'est pas le seul, hein, parce que même si le FN s'est toujours présenté comme le parti pro-bagnole et pro-pollution, c'est pas le seul, hein. On sait que le PS défend bien l'automobile, que la droite traditionnelle défend bien l'automobile aussi. De toute façon, il y a que les Verts, hein, qui sont un peu réticents et un peu, j'ai dit seulement, au transport polluant qu'on trouve dans nos villes. Donc voilà. On notera quand même que l'excuse de Thierry Philippe, qui est donc le maire du 3e arrondissement, mais qui est surtout le vice-président de la métropole chargé de l'environnement, sur la gratuité des transports, c'est que ça coûte cher et que ça sert à rien. Alors ça coûte cher, c'est pas si vrai que ça, en fait. Parce qu'on rappelle que si les transports sont gratuits, d'un seul coup, les coûts explosent pas. Le ticket, c'est 18% du prix des transports. Le reste, c'est payé par les impôts, plein de choses autour, la pub, les machins qui font rentrer de l'argent dans la société privée qui gère les transports en commun lyonnais. Donc c'est que 18% hein, que l'utilisateur paye et que la ville paye. Et puis en plus, bon, alors c'est vrai qu'il a raison quelque part, c'est une fausse solution, la gratuité sur les jours de pollution. En fait, la solution, c'est la gratuité à long terme. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que les transports en commun soient gratuits. Une fois que les transports en commun soient gratuits, les gens reprennent l'habitude de plus les utiliser, même s'ils sont déjà beaucoup utilisés. Alors, on a de la chance, on est une ville développée où il y a beaucoup de transports en commun. Alors, il y a aussi une critique hein, de M. Boulot là, sur les transports en commun qui ne seraient pas adaptés au mode de vie et de travail des Lyonnais. Ben, le principal défaut des transports en commun des grosses villes, notamment de Lyon, c'est que c'est adapté que au mode de déplacement pour le travail. C'est ça le plus gros problème. Parce que vivez différemment, rentrez chez vous à 3h du matin, bah vous n'avez pas de transport en commun. Vivez décalé, commencez tôt le matin, vous n'avez pas de transport en commun. C'est adapté aux 90% de la population qui travaille le matin, qui se déplace entre 7h30 et 9h et qui rentre le soir entre 16h30 et 19h. Heure de pointe d'ailleurs, bizarrement. Bah oui, c'est logique. Donc en fait, les transports en commun sont faits pour ça. Hein, pour que les Lyonnais aillent produire, aillent travailler. C'est un soutien officiel au capitalisme. Hein, c'est pas pour votre plaisir, c'est pas pour que vous sortiez le dimanche, vous promenez avec vos enfants, c'est pas pour que vous alliez voir vos amis, non, c'est pas fait du tout pour ça, c'est fait pour que vous alliez bosser. Et du coup, c'est plutôt adapté, contrairement à ce qu'il dit, pour les transports travail-maison. C'est moins adapté pour d'autres transports. Mais voilà, donc c'est une fausse attaque hein, que peuvent faire ces gens, que ce soit M. Boudot ou son collègue Thierry Philippe, qui est d'un autre parti politique, hein, mais dont ils partagent le fait d'être élu.
Oui, alors il y a un certain nombre de propositions qui sont faites pour pallier cette pollution. C'est le Grand Lyon qui a mis en place la gratuité des vélos pendant une heure pour tous, hein, dès hier. C'est super, de s'hésiter donc à prendre le vélo une fois qu'on est bien dans le brouillard. Et puis c'est pareil, vous pouvez prendre le service d'autopartage électrique, 100% renouvelable.
Ouais, alors c'est pas tous les jours, parce que quand la CNR était en grève il y a pas longtemps, il y avait moins d'électricité. Parce que la CNR, c'est la Compagnie Nationale du Rhône qui fournit l'électricité à ses voitures pseudo-renouvelables.
Alors, et puis on nous vous incite aussi à faire du covoiturage. Alors moi j'ai essayé d'y aller hein, sur le site du covoiturage, je sais pas, ça a planté, ça marchait pas, donc j'ai pas pu covoiturer. Bon, j'ai pas de voiture, vous me direz, mais je sais pas, j'aurais trouvé une solution pour covoiturer, je suis motivée. Et puis le préfet, donc tu le disais, avait demandé à Gérard Collomb de mettre en œuvre la gratuité des transports en commun. La réponse est donc non, hein, vous l'aurez compris. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir la réaction par rapport à cette grève dans les TCL, où par exemple on a la réaction du maire du 6e, monsieur c'est Pascal Blache qui estime que la CGT fait une prise d'otage, que ça, le mouvement social a un impact négatif sur l'économie. Alors là, il pense au manque à gagner pour les commerçants à la veille de la fête des Lumières. Et puis, il pense que c'est mauvais pour la santé publique en période de pic de pollution. Il explique, il serait irresponsable, insoutenable, inacceptable que vous ne cessiez pas immédiatement votre mouvement. Donc, on fait porter aux travailleurs la charge de réagir face au problème de la pollution. C'est un peu facile, encore
ouais,
une
et
fois.
Puis, les travailleurs défendent leur outil de travail, donc ils défendent les transports en commun. Donc, c'est plutôt un truc positif sur le long terme. C'est un petit peu facile d'accuser. Et puis, pour savoir un truc, non, les gens ne sont pas pris en otage. La prise en otage, c'est très compliqué, très sérieux. Ça a souvent un impact psychologique. On est obligé de voir, voilà, de se faire soigner derrière. Enfin, c'est ça. Et là, pas du tout, hein, quand on est dans un transport en commun où il y a des perturbations, on n'a pas du tout ce genre ouais. de problématique.
Perturbations, demain, je veux dire, moi j'ai été voir, ça commence à 7h le matin. Ah oui, ça emmerde, comme on le disait la semaine dernière, ceux et celles qui commencent très très tôt. La ligne C, elle ne circule pas le soir. Et puis après, il y a quelques bus qui, effectivement, sont à l'arrêt le matin. Enfin, on est loin des grosses grèves des TCL qu'on a pu connaître il y a très 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 longtemps maintenant. Donc la prise d'otage, merci bien. En tout cas, on notera quand même que pour la fête des Lumières, ce jeudi, à partir de 16h, les transports étaient gratuits. Alors là, par contre...
Ah oui, alors pour le tourisme, là, le capitalisme, pour faire rentrer de l'argent, comme ça, pour une fête pseudo-religieuse, enfin religieuse et récupérée par le capitalisme, oui, la gratuité est défendable, est possible, on est prêt à mettre de l'argent dedans. Oui, il y a vraiment deux poids, deux mesures hein, de la part de M. Collomb et de ses amis.
Ouais, bah écoute, Gérard Collomb, c'était la semaine dernière, jeudi dernier, il était à Polytech, tu sais, le super salon. Et il a présenté donc son programme, son plan Oxygène. Hein, déjà, rien qu'un oui, tu peux rire. Rien qu'avec un nom pareil, on y croit déjà. Et il s'en est pris à qui ? À François Fillon, en disant qu'il n'avait pas de programme environnemental. Bah écoute, Gérard.
Toi non plus.
Je crois qu'on va en rediscuter. En tout cas, bon, tu me diras, c'est pas Scott Pruitt, le nouveau climato-sceptique à la tête de l'Agence de l'environnement aux États-Unis d'Amérique. Mais on n'en est peut-être pas bien loin quand même, hein, parce qu'il faut pas bien d'efforts. Et puis, juste pour terminer sur quand même la pollution, je ne sais pas si vous avez vu cette une de 20 minutes que j'avais montrée à Laurent plus tôt. La fumée tue. Alors, ce n'est pas la pollution tue, mais c'est quand même la fumée tue. C'est quand même un titre... assez marquant pour 20 minutes, excuse-moi.
Hein, on répète toujours la 48 000 morts en France par an, des choses comme ça. C'est surtout, en fait, c'est pas les morts qui sont le plus important, c'est le nombre d'enfants qui sont malades de l'asthme. 30% des enfants asthmatiques en ville sont asthmatiques à cause de la pollution automobile. Donc ça fait quand même beaucoup de petits-enfants malades. A priori, ils s'en foutent des enfants malades, vous allez me dire. Mais bon, quand même. Alors, dans les solutions, et en dehors du transport gratuit permanent, Lyon pourrait mettre en place des choses assez simples. C'est une petite ville, Lyon. Hein, même si on est, il y a 600 000 habitants intramuros. Avec les vélos autour, on est 1 million. On peut développer le vélo parce que tout est accessible en vélo, en fait. Il faut 3 quarts d'heure, à peu près pour traverser Lyon d'un bout extrême à l'autre bout extrême en diamètre. Hein. Donc, 3 quarts d'heure, ça veut dire que tout est accessible en vélo par n'importe qui. Bien sûr, il faut avoir moins de 70 ans, hein, mais, en dehors de ça, c'est vraiment accessible. Et il faudrait transformer Lyon en ville cyclable, parce que Lyon n'est pas du tout, bien évidemment, même si Gérard Collomb fait semblant de faire la propagande pour le vélo, rien n'est fait pour les vélos, pour être cycliste depuis plus de 20 ans, je peux vous le dire. Ne serait-ce que les autorisations à tourner à droite ou à passer tout droit sur un feu rouge, comme ça vient d'être mis en place à Bruxelles, comme c'est mis en place dans pas mal de villes cyclables du monde, là il en est hors de question. Dans les zones 30, où le double sens, le contresens cyclable est obligatoire, sauf exception. Si vous allez autour de Radio Canu, vous verrez, vous montez les pentes, et toutes les rues, c'est des exceptions. C'est quand même pas mal d'avoir mis toutes les rues en exception. Donc, il a tout fait pour limiter le développement du vélo à Lyon. Ce qui sort, ce qui n'est pas au sein de sa propagande, parce qu'il développe des trucs qui sont très propagandistes sur le vélo. Par contre, c'est vraiment utile, il le fait pas. Hein, par exemple, désenclaver les deux collines, hein, dans les villes où il y a des collines, ça limite forcément, mécaniquement, le développement du vélo. Les gens ont peur de monter une colline. Il y avait des projets, hein, même dans le projet de M. Collomb, il y a quelques années, mais comme c'est un menteur, il a pas tenu sa promesse, et nous n'avons pas de remontée mécanique pour vélo, alors que ça s'est fait dans plein de villes en Europe et dans le monde. Donc là, ça coûterait pas grand-chose de faire ça, de faire des pistes cyclables, des vraies. Il n'y en a presque pas de pistes cyclables à Lyon. Il n'y a que des bandes cyclables qui sont inutilisables. Donc, il y a une vraie volonté de continuer d'aider l'automobile
Pour preuve, la rénovation du tunnel de la Croix-Rousse, il aurait pu être rénové et supprimer totalement la circulation automobile. Il a décidé de la maintenir telle qu'elle, avec les conséquences qu'on connaît sur l'école qui est juste à côté, hein, de Michel Servet, qui, dont les enfants, à la récré, respirent les polluants issus du tunnel de la Croix-Rousse, grâce à Gérard Collomb. Et alors, sur la politique gouvernementale, on rappelle qu'il y a un bonus écologique quand vous achetez une voiture. C'est-à-dire qu'on vous donne jusqu'à plusieurs milliers d'euros si vous achetez une voiture. Alors que si vous revendez votre voiture et que vous passez au vélo, on vous donne rien. Si vous décidez d'arrêter le vélo et de passer une voiture, on vous donne de l'argent. Il y a une vraie prime à l'industrie automobile, une vraie prime à la pollution. Et ça, c'est une des raisons qui fait que rien ne progresse. Ou ça, si, ça progresse quand même. Faut pas non plus se masquer les choses. Ça progresse très lentement. Alors, un petit exemple maintenant pour voir ce qui se passe ailleurs. Et vous allez voir qu'ailleurs, ça pète quand même. Donc à Lyon, c'est quelques pourcents les transports à vélo. On va passer à Copenhague. Copenhague, pour la première fois... Alors Copenhague, ils ont plein de capteurs qui comptent le nombre de vélos en ville et le nombre de voitures. Pour la première fois, il y a plus de vélos qui circulent à Copenhague que de voitures. Hein, ils ont compté, donc sur l'année en cours, là, ils ont compté 265 700 vélos contre 252 600 voitures. C'est énorme. Il y a plus de vélos que de voitures. Nous, c'est quelques pourcents, les vélos. Là-bas, c'est beaucoup plus. Alors, c'est pas né par l'effet du Saint-Esprit ou de la Vierge Marie qui viendrait comme ça faire un miracle. Pas du tout. Hein, la Vierge Marie ne fait aucun miracle. C'est de la propagande. Il faut mettre des choses en place. Ils ont mis en place plein de choses. Ils ont transformé la ville en ville cyclable. Et ça continue de progresser. Sur un an, alors que ça fait 20 ans, hein, qu'ils ont 30 ans qu'ils ont ce programme. Rien que sur la dernière année, ça a encore augmenté de 15%. Le trafic des vélos et le transport automobile a baissé de 1%, alors que la population, elle continue d'augmenter au sein de la ville. Donc, il y a un vrai progrès. Alors, c'est pas le seul, hein, on pourrait parler du Danemark, de Copenhague, d'Amsterdam. Donc là, j'étais à Copenhague, on peut passer à Amsterdam, donc aux Pays-Bas. Alors là, c'est carrément un truc incroyable. Il y a 800 000 vélos en ville qui circulent tous les jours et 236 000 voitures. Il y a plus de voitures, plus de vélos que de voitures. 63% des habitants utilisent tous les jours le vélo. 63%. Ah bah oui, la pollution, elle est réglée là. Hein. On a fini, le reste c'est les transports en commun, et il reste quasiment plus de voitures. C'est la solution, vraisemblablement. Il faudrait les partis prennent ça en compte, mais c'est mal parti, puisque de la gauche à l'extrême droite, on reste quand même pro-voiture, même si on dit qu'il vaut mieux une voiture électrique, histoire que la pollution, elle se barre chez là où sont les centrales nucléaires, les centrales thermiques. Voilà, c'est une grosse page pollution, parce qu'on en a marre de respirer leur pollution pourrie.
D'ailleurs, t'as failli faire le martyr en direct à la radio en t'étouffant à cause de la pollution.
C'est ça, c'est la
martyr.
Pollution.
Voilà. Alors, on va parler très rapidement de publicité et de jeunesse, puisque le Sénat a définitivement adopté dans la nuit de mercredi à jeudi la proposition de loi relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique. C'était une proposition portée par le sénateur écologiste André Gattolin. Alors, il faut savoir que la quasi totalité des socialistes et des communistes se sont abstenus sur cette proposition. Alors, c'était déjà passé en deuxième lecture le 30 novembre. C'était une adoption. L'Assemblée nationale avait voté en janvier contre l'avis du gouvernement cette proposition de loi. Donc là, on arrivait à la fin. La proposition ne pouvait plus être amendée sans remettre en route des allers-retours et donc mettre en place la possibilité que cette loi ne soit pas votée et du coup pas appliquée. Alors c'est pas une super loi en fait parce que ça ne vise que la télévision publique. Certains et certaines commencent à demander à ce que ça soit élargi.
Ça serait logique. Hein.
Ah oui, ça te sort les mots de la bouche, dis donc. Alors ça prévoit donc quoi cette loi? Ça prévoit qu'à partir du 1er janvier 2018, la suppression de la publicité commerciale dans les programmes de la télévision publique destinée aux enfants de moins de 12 ans durant les 15 minutes qui les précèdent et qui les suivent. Vous voyez un petit peu l'idée. Il faut savoir que toutes les enquêtes montrent que avant 7-8 ans, les enfants ont du mal à faire la différence entre le programme et la publicité, d'où la nécessité quand même d'agir. Mais effectivement, ce texte ne va pas bien loin. Il y a eu un gros lobbying du secteur du jouet.
Et de la bouffe.
André Gattolin a répondu, par exemple, aux fabricants de jouets qui disaient « Attention, il y a des risques pour l'emploi. Il ne faut peut-être pas se tromper, 90% des annonceurs publicitaires dans le secteur font la première pollution de jouets fabriqués à l'étranger. Donc oui, peut-être l'emploi au niveau du commerce, mais en tout cas certainement pas au niveau de la fabrication et de la production.
En fait, ça n'a pas d'impact sur l'emploi. Le gamin, il aura quand même son cadeau de Noël.
Exactement.
Voilà. Donc non, c'est juste de la propagande. Si ceux qui ont tout à perdre, c'est la malbouffe.
C'est
ceux qui fabriquent des produits très mauvais pour les enfants et les adultes, qui eux font leur propagande pendant ces heures-là. Eux, par contre, ils ont tout à perdre et c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, et puis il faut aussi se rappeler que le gouvernement a assoupli les modalités de parrainage de ces émissions pour la télévision publique, donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va pouvoir rentrer en plus. Il faut savoir que le groupe public a aussi des revenus avec 70 chaînes créées sur YouTube Kids, et puis la régie publicitaire va travailler avec Time Warner pour 3 chaînes pour la jeunesse, donc ça veut dire qu'il y a des revenus quand même qui rentrent. Reste que maintenant, l'intéressant, ça serait qu'on arrête d'avoir de la publicité avec des enfants, c'est-à-dire des petits acteurs qui nous vendent des yaourts, des voitures et à peu près tout ce qui peut se faire. La loi s'est beaucoup assouplie ces dernières années. Donc ça serait une vraie avancée, c'est-à-dire ne plus utiliser les enfants pour nous vendre des petits pois, ça serait super. Enfin, la France n'est pas du tout pionnière en la matière. En Suède, toute publicité est interdite sur les plages horaires des programmes jeunesse réservés aux enfants de moins de 12 ans, que ce soit sur les chaînes publiques ou privées. En Norvège et en Finlande, la publicité est extrêmement limitée. Et puis en Espagne et en Grande-Bretagne, il n'y a pas de publicité dans les programmes enfants de la télévision publique. Donc la France ne fait finalement que prendre la suite. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, ça va un petit peu plus loin, puisque la commission sur les pratiques publicitaires a annoncé que les publicités pour les aliments trop gras, sucrés ou salés ciblant les enfants, qui sont déjà interdites à la télévision, le seront également sur Internet, au cinéma, sur les réseaux sociaux et dans la presse à compter de juillet 2017. Donc voilà, là encore, on va un petit peu plus loin.
Alors, on va parler un peu de justice maintenant, avec quelques petites affaires qui m'ont fait réagir. La première, c'est un jugement qui est relativement exceptionnel, hein, en tout cas au niveau de sa sévérité, puisqu'il sanctionne une fonctionnaire qui est censée donc représenter l'État. C'est le tribunal correctionnel de Nice qui a condamné il y a 2 jours, mardi 6 décembre, Dominique Claire Testard, l'ancienne sous-préfète de Grasse, à 3 ans de prison ferme, hein, pour corruption. La peine est assortie de 20 000 euros d'amende et surtout, ce qui est plus important, d'une interdiction définitive d'exercer une fonction publique. Donc elle avait été mise en cause dans une affaire de corruption avec un de ses amis, Marcel Gélabert, hein, qui voulait récupérer autour d'un hôtel-restaurant 4 étoiles qu'il voulait revendre, récupérer un petit peu du terrain autour. Il fallait faire requalifier tout ça en projet d'urbanisme, c'est-à-dire en zone constructible. Il y avait un petit souci sur l'accès aux pompiers à cette partie de la forêt. Elle a tout fait pour qu'il ait toutes les autorisations, que l'État mette en œuvre ce fameux chemin pour les pompiers, etc., pour qu'il puisse revendre son truc et gagner plein d'argent. C'était un ami à elle. Elle s'est fait prendre la main dans le sac. Alors, c'est pas allé jusqu'au bout, hein, puisque il a pas pu revendre, elle a pas pu avoir, elle ou son ex-mari, les 200 000 euros promis, qui étaient donc la somme liée à cette corruption. Mais ça n'empêche pas, ça n'a pas empêché en tout cas le tribunal correctionnel de constater qu'il y avait vraiment un mélange important entre les considérations d'ordre général et les intérêts privés de la personne. Et puis que voilà, une sous-préfète, elle n'a pas du tout à faire ça. Donc une belle et grosse condamnation. Alors dans la deuxième grosse condamnation, celle-là elle est encore plus médiatisée, c'est celle de Jérôme Cahuzac. Vous savez, celui qui est porté au nu là par tout le monde pour avoir caché des comptes à l'étranger. Alors, il a vraiment caché des comptes à l'étranger. Hein. Je rappelle, c'est arrivé en 2012, c'est Mediapart, hein, qui a révélé l'affaire. Comme quoi, le ministre du budget, alors qui en plus était particulier, ministre du budget, il faisait la propagande de la chasse aux méchants tricheurs au niveau des impôts. Donc, c'était un ministre chasse aux tricheurs. Et paf, il se fait choper par Mediapart qui révèle qu'il a un compte en Suisse. Donc il nie, il va jusqu'au bout et puis à la fin, bon, ça clash. Et le 19 mars 2013, il démissionne et il va tout avouer le 2 avril. Avouer quoi ? Avouer que avec sa femme, il détenait une clinique d'implants capillaires qui avait plein d'argent et qu'ils ont mis leur argent dans des banques suisses, après à Singapour. Enfin voilà, tout un tas de choses pour échapper au maximum à l'impôt. Il s'est fait choper donc la main dans le sac. Donc le dossier est gros, hein, il y a 200 pages hein, quand même de dossiers sur les malversations financières du Cahuzac. Et donc, il a pris cher, comme on pourrait dire, quand on est jeune, puisqu'il a pris quand même 3 ans de prison ferme, sans aménagement de peine, pour fraude fiscale et blanchiment. Alors, la question qu'on peut se poser sur ces deux affaires, c'est que, est-ce que la prison ferme est utile ? La prison ferme est quasiment jamais utile hein, dans une condamnation. Alors certes, ça nous fait un peu plaisir que des gens issus de l'élite, issus des puissants, issus des forces de l'État comme ça, soient condamnés avec des peines importantes. Bon, de là à condamner des peines de prison sur quelqu'un qui a volé, hein, puisque ça revient à du vol, ça nous paraît limite, hein, parce que voilà, on n'est pas d'accord avec l'emprisonnement inutile des personnes. Il faut que l'emprisonnement ait un sens. Là, ça en a vraiment pas. Ça en a quand même pas souvent d'ailleurs, puisqu'on rappelle qu'il y a en général pour quasiment toutes les personnes condamnées des solutions alternatives à l'emprisonnement. Sauf problème psychiatrique très important, bien évidemment. Donc, bon, alors, certes, ça nous fait plaisir, mais ça nous rappelle surtout qu'en fait, comme ça, comme c'est ultra médiatisé, il y a une vraie manipulation des médias, hein, pour dire, regardez, les élites, en fait, échappent pas aux problèmes judiciaires quand ils trichent. Et on met en avant ces condamnations-là, celle de la préfète et surtout celle de Cahuzac, qui fait, voilà, c'est l'épouvantail, et derrière, et ben derrière, les autres, ils continuent. Et surtout, on n'en fait pas beaucoup plus, même si le jeune parquet financier national financier qui a été mis en place suite à Cahuzac, qui a instrumentalisé l'affaire, porté l'affaire jusqu'au bout, est une bonne création, c'est une bonne chose. Au final, on se rend compte que les élus, les élites, les patrons échappent quand même pas mal à l'impôt, pas mal aux poursuites aussi. Sarkozy toujours pas en taule, Marine Le Pen et ses copains du FN qui ont plein d'affaires sur le financement illégal de leur parti, ils sont pas condamnés. Alors ils sont condamnés pour les affaires de racisme, hein, parce qu'ils se lâchent beaucoup. Donc là sur le racisme ça pardonne pas, par contre sur le reste c'est relativement cool. Si vous volez autant que ces gens-là ils volent et que vous faites choper, parce que là ils se font choper à chaque fois, vous êtes en prison depuis très longtemps. Hein. On rappellera pour terminer peut-être l'affaire, une des dernières affaires, grosses affaires où les élites échappent à la justice, c'est l'affaire Servier avec le médiateur, hein, où le médiateur va tuer entre 500 et 1000 personnes, minimum, et les responsables n'iront jamais en prison, puisque le principal responsable, M. Servier, a échappé, échappera définitivement, puisqu'il est décédé depuis, à la prison, et même les autres échappent totalement, ni à la prison et aux condamnations, ce qui est la honte, parce que quand même, être un serial killer, c'est-à-dire tuer plus de 500 personnes, c'est quand même un petit peu plus important que de voler un autoradio ou un portable dans la rue. Et pourtant, les gens qui volent ça, en général, eux, ils finissent en prison. De la même chose, hein, si vous regardez, Apple est poursuivi par l'administration française, là, qui réclame 400 millions d'euros. Donc, ils ont triché hein, aux impôts, c'est-à-dire ils ont volé l'État. C'est-à-dire, voler l'État, c'est faire moins d'argent pour la sécu, moins d'argent pour les routes, moins d'argent pour aider les pauvres, etc. Eh bien, ils vont être condamnés, Apple, oui, mais il y a une amende. Ils n'iront jamais en prison. Donc il y a une vraie inégalité, hein, une inégalité sur les puissants qui échappent vraiment à la justice. On ne parle pas des forces de répression, de la police qui échappe totalement, quasiment, à la justice. Mais il y a, voilà, donc ces deux affaires qui sont montées en épingle par les journalistes cachent vraiment l'impunité assez généralisée des puissants.
Alors, on va revenir avec Gérard Collomb, si vous voulez bien. Mardi soir, sur France 5, était diffusé le documentaire Pour quelques hectares de plus. Je vous invite à aller voir ça, puisque c'est, vous savez, dans les trucs replay et tout ça, hein, sur le site web de France 5. Alors, déjà, parce que c'est très intéressant. Et puis, parce qu'on a le plaisir d'y retrouver notre empereur Gérard Collomb. Alors, le réalisateur Nicolas Vescovacci veut alerter sur la disparition des hectares de terres cultivables au profit de ces fameux grands projets, qu'ils soient sportifs, culturels ou liés à la consommation.
Donc là, c'est l'OL Land surtout qui est visé.
Il y a le grand stade, ouais, effectivement, de l'OL qui est bien évidemment au creux de ce documentaire. Et alors, il y a une interview de Gérard, le réalisateur lui demande « Vous savez combien la métropole a déboursé pour payer les accès au stade ?» Tout de suite, Gérard coupe la parole au réalisateur. « Oui, 200 millions. » On sent déjà qu'il est un peu au taquet. Et là, la question suivante, est-ce que ça vous paraît une somme importante, peu importante, justifiée ? Et là, on sent que Gérard Collomb est particulièrement énervé. Et il lui répond « 200 millions d'euros qui sont dépensés par la puissance publique pour la construction d'un stade qui va procurer du travail aujourd'hui à 1500 personnes. » Oui, il dit bien 1500, pas 1500. Tout de suite, vous essayez, ça donne de l'ampleur. « C'est comme cela qu'on développe l'économie à Lyon, cher monsieur. » Et là, le réalisateur essaie d'intervenir. Gérard le coupe, le recoupe encore une deuxième fois. « C'est pour ça que les Lyonnais me font confiance et qu'ils m'ont réélu pour un troisième mandat. » Sauf que, je ne sais pas, Collomb, il a dû se dire, ouais, France 5, tout ça, c'est un peu mou du jour.
Cool.
Sauf que Nicolas Vescovici, lui, il se laisse pas faire. Et il lui demande, et c'est pour ça que vous avez donné un coup de pouce à monsieur Aulas pour son stade? Poum, poum, poum. Et alors là, Gérard, de s'emporter et de s'énerver et de dire, on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Il est, narquois, méprisant, condescendant, Gérard Collomb, dès le départ, de toute manière, au moment où vraiment ça commence, on sent que ça l'agace. Et ben, Gérard Collomb, qu'est-ce qu'il fait? Il met fin à l'entretien et il quitte son propre bureau en claquant la porte. Je vous jure, la porte, elle claque, on l'entend. Alors que le réalisateur, lui, continue à lui poser des questions. Il s'est levé, hein, il le suit, quoi. Et alors là, il y a l'attaché de presse, Pierre Boudimir, qui se plaint que les questions, elles correspondent pas vraiment à celles qui avaient été communiquées au départ. Oh là là, oh là là, gros scandale. Alors finalement, Gérard revient dans son bureau, c'est quand même son bureau, merde. Il demande au réalisateur de démonter son matériel et il lui dit, j'ai besoin de travailler. Voyez, l'empereur, hein. Là, s'il avait une houppette, il l'aurait secoué sur sa tête. Pourtant, le journaliste, il continue, hein, il lui dit, ce sont des questions qui sont légitimes et que beaucoup de Lyonnais se posent. Et là, le maire commence à lui répondre, très peu de Lyonnais se les posent. Et là, c'est vraiment en fond sonore qu'on entend ça, puisque la caméra est éteinte par un assistant de Collomb juste derrière. Sortez, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils se sont pas fait chier, ils ont été éteindre le matos du réalisateur. Manque de bol, tout ça a quand même été diffusé sur France 5 mardi. Moi, je vous invite vraiment à voir ce documentaire. C'est très bien, et en plus de ça, ça permet d'y voir Gérard dans le vif, comme ça.
Allez. Quelques petites infos sur les fachos, les autoritaires et les réactionnaires de par le monde. On va commencer par Marine Le Pen aujourd'hui, qui a encore fait parler d'elle, puisqu'elle a dit qu'il fallait arrêter la gratuité de l'éducation pour les enfants étrangers. Ces méchants étrangers qui viennent manger le pain des Français. Elle n'a pas dit comme ça, mais ça revient exactement à ça. Donc il ne faut plus qu'ils aient droit à l'école, il faut qu'ils payent pour aller à l'école. Donc si c'est un nouveau concept, vous allez payer pour aller à l'école publique. Elle dit qu'elle n'a rien contre les étrangers. Bon, bizarrement, si quand même. Voilà, donc elle veut plus qu'ils soient soignés gratuitement, elle veut plus qu'ils soient éduqués gratuitement. Comme elle dit, c'est la fin de la récréation. Bon, du fascisme à l'état pur, bien évidemment, du racisme, de la xénophobie. La présidente du FN oublie quand même un truc, c'est que dans la constitution de la 4ème République, votée en 1946, il y a le droit à l'éducation gratuite pour tous. Et ouais, le droit à l'éducation. Ça, ouais. Après, elle va parler d'intégration, que les gens s'intègrent pas, que c'est complet. Pas forcément, si, en plus, ils auront plus accès à l'école. Ça va être compliqué. Enfin, bon, bref. Mais un truc plus drôle, et moins drôle d'ailleurs, sur le Front National. C'est la bataille interne qui a lieu depuis l'intervention de Marion Maréchal Le Pen sur l'avortement et le droit à l'avortement, et surtout sur le remboursement, puisque elle a dit qu'elle voulait arrêter le remboursement de l'IVG en France. Marine Le Pen a pas réagi tout de suite, mais elle a réagi un petit peu plus tard en disant que non, que pour elle, il était hors de question d'arrêter le remboursement de l'IVG, et elle a dit qu'elle défendrait dans cette campagne le droit des femmes. Elle s'est toujours présentée comme ça, Marine Le Pen, avec un faux discours féministe. Alors ça, du coup, ça a fait la pagaille, puisque Philippot est allé défendre Marine Le Pen. La Marion, elle a plein de copains quand même, puisqu'elle a récupéré 7 responsables départementaux, 7 responsables départementaux, 7 chefs, quoi, la soutiennent. Bref, c'est une guerre de tranchées. Elle a un mérite, Marion Maréchal Le Pen, c'est qu'elle est honnête, parce qu'elle pense vraiment ça, elle pense vraiment qu'il faut arrêter l'IVG, alors que Marine Le Pen, on sait qu'elle pense ça, mais elle fait semblant de pas penser, elle le dit pas. Donc finalement, on vaut mieux une fasciste qui dit ce qu'elle pense, plutôt que celle qui cache son jeu. Alors pour revenir sur le pseudo-discours féministe de Marine Le Pen, j'ai récupéré juste 3 votes qu'elle et ses amis frontistes, qui sont élus au Parlement européen, ont fait. Et vous allez voir que, bizarrement, quand ça concerne les femmes, elles votent toujours contre. Alors, il y avait un amendement, c'était en 2010, qui augmentait le congé maternité pour les femmes après un accouchement, bien évidemment. Donc ça passait, il l'augmentait à 20 semaines. Le MoDem, l'UMP et le FN ont voté contre. Donc là, quand il fallait que les femmes se reposent, un droit pour que les femmes se reposent plus après avoir accouché, elle a voté contre. Autre chose, un rapport sur la santé, les droits sexuels et génésiques, alors c'est le terme, il exprime tout ce qui tourne autour de la santé reproductive, l'éducation sexuelle ou le droit à l'avortement, elle a voté contre, avec ses amis de l'UMP. Ah, bizarre, hein. Et puis alors, un rapport sur l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est en 2014, elle a voté contre aussi. Bon, bref, elle est contre l'égalité homme-femme, elle est contre l'éducation sexuelle, le droit à l'avortement, mais elle ne le dit pas. Elle vote des lois contre, mais elle ne le dit pas. Bon, heureusement, au niveau de l'Europe, ils sont minoritaires ceux qui votent ça, donc en général, ça ne passe pas forcément. Mais bon, voilà, c'est juste pour rappeler qu'elle a un faux discours pseudo-féministe. Ça reste une fagiste. Dans les autoritaires, les mauvaises infos sur la Syrie, hein, puisque Alep est en train de tomber, la résistance, la résistance, c'est compliqué de parler de résistance. Hein. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse lire. Il y a un très bon article du Monde Diplomatique du mois de décembre qui réexplique toutes les factions en jeu. C'est très compliqué aujourd'hui, la résistance syrienne. Donc voilà, Alep est en train de tomber, hein, ça cartonne dans tous les sens. Il y aurait eu 350 morts de civils ces derniers jours. L'armée du dictateur président Bachar el-Assad est en train de gagner. Il l'a dit lui-même, hein. Il a dit que c'était une énorme étape vers la fin du conflit. Donc il est très content. Alors on se rappelle qu'il est appuyé par des combattants iraniens, par le Hezbollah libanais, qui sont tous sauf des progressistes, hein, ces gens-là. Quelques milices chiites irakiennes qui viennent aussi porter secours à Bachar el-Assad. Et donc la chute d'Alep Est est vraiment en cours. C'est une question de quelques jours. Alors, les opposants ont demandé un cessez-le-feu. Mais bon, il n'aura pas lieu puisque le régime... sentant la victoire, ils accentuent le bombardement. Alors ils ont demandé pour évacuer les blessés notamment et les civils. On rappelle que le régime, avec l'aide de la Russie, ont bombardé tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un hôpital ou une infirmerie. Donc effectivement, les blessés peuvent plus être soignés. Donc voilà, la situation est vraiment très très catastrophique aujourd'hui à Alep, qui est en passe de tomber, de retomber dans les mains du dictateur président. Alors, une autre info, deux petites autres infos sur les réactionnaires du monde entier. On va passer en Israël, puisqu'il y avait un sommet des médias juifs. C'était le 4 décembre dernier. Eli Groner, qui travaille avec Netanyahou, a affirmé qu'il n'était pas possible pour Israël de séparer État et religion. Alors, je cite sa phrase, il a dit « Alors que beaucoup de grandes démocraties du monde peuvent avec succès et élégamment séparer la religion de l'État, en Israël, nous ne pouvons pas. » Il explique, nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas. Nous sommes un État-nation souverain juif, pour le meilleur et pour le pire. Effectivement, c'est souvent pour le pire, parce qu'à partir du moment où lui, Netanyahou et tous les autres pensent que c'est un État religieux juif, les musulmans, les chrétiens et tous les athées, n'ont pas leur place en Israël, ni dans les parties occupées comme Jérusalem-Est. Donc voilà, on comprend pourquoi la situation est vraiment critique pour tous les non-juifs de l'État d'Israël, ou pour les juifs athées d'ailleurs, hein, puisque il y a une partie qui sont athées et qui eux aussi commencent à en prendre plein la gueule. C'est dit officiellement par Eli Groner, qui est donc le bras droit du Premier ministre israélien, M. Netanyahou. Et un petit dernier mot sur la Pologne. Alors, la Pologne régresse, on le sait tous, hein, on se rend compte. Une nouvelle régression, c'est dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le gouvernement polonais ne veut plus du tout entendre parler des violences faites aux femmes. Donc le ministre en charge des affaires sociales et des affaires familiales vient d'annoncer que la Pologne allait se retirer de la Convention d'Istanbul. Alors c'est quoi la Convention d'Istanbul ? C'est la convention qui protège les femmes en Europe. Alors cette convention, elle a été signée. Alors elle est signée par les États, tous les États européens, mais c'est pas tous les parlements l'ont pas ratifiée. Et le Parlement polonais l'a ratifiée il y a un an. Donc c'est une vraie régression, un vrai recul. Alors qu'actuellement, le Parlement européen a voté à une écrasante majorité la demande à ce que, qu'il y ait une résolution officielle de l'Union européenne, comme quoi l'Union européenne en entier adhère à cette convention d'Istanbul. Et là, la Pologne est en train de faire machine arrière dans son pays en disant que non, il faut arrêter de protéger les femmes victimes d'agressions physiques ou d'agressions sexuelles. Alors après la tentative de régression sur le droit à l'avortement, qui heureusement a été ralentie pour l'instant par la mobilisation des femmes en Pologne, là, il y a un vrai recul sur la protection des femmes, sur les violences. Et alors ils expliquent que ça contrecarre, d'après le gouvernement polonais, les traditions et la famille. C'est-à-dire qu'en Pologne, il y a des traditions familiales que le mari, il tabasse sa femme, puisque c'est des violences faites aux femmes, violences physiques et aussi violences sexuelles. Donc aussi en Pologne, le viol est une tradition. C'est quand même vraiment très important ce qui se passe en Pologne sur au niveau régression sur le droit des femmes. Donc voilà, la convention d'Istanbul remise en cause, qui est une convention, donc je vous rappelle, qui protège les femmes contre les violences physiques. On rappelle que les violences physiques sont dues à la très 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 très, très grande majorité par les hommes. Il y a très peu de cas de femmes qui tabassent d'autres femmes.
Alors, je vais essayer d'enchaîner là-dessus. Et nous allons terminer avec, en parlant cinéma.
Et en parlant d'une femme.
Et en parlant de film de Brillante Mendoza, Ma Rosa.
Ma Rosa, c'est le nom d'une femme.
Rosa, une femme, une mère, une épouse qui tient une toute petite épicerie dans un quartier de Manille.
Oui.
Épicerie pourrie.
Oui, et puis qui fait du trafic.
Alors, effectivement,
de
entre deux petits paquets de bonbons, des paquets de mouchoirs, elle vend des petits sachets de cristal.
Cristal, hein, c'est comme dans Breaking Bad, hein, voilà, c'est cette drogue-là qu'on fabrique.
Ouais, de manière chimique. Il faut le dire, assez dévastatrice. Hein,
oui,
quand même.
Tout à fait.
Il faut le signaler.
Hein.
Non, tu savais pas, auditeur, auditrice, toutes les drogues ne sont pas bonnes. Ça c'est fait. Alors, ce qui lui arrive à Rosa, c'est que elle et son mari, son Nestor, le mari, sont dénoncés par un petit client, un gamin qui a été arrêté. Ils sont tous les deux embarqués au commissariat. Ils passent par la porte arrière et non pas par l'entrée principale. Il faut savoir qu'aux Philippines, les tribunaux sont fermés le week-end, donc il y a un jeu de la part des policiers qui est d'arrêter des personnes le vendredi soir pour avoir le temps de quoi faire, de les racketter, puisque les policiers vont proposer à Rosa et à Nestor un marché, soit la prison et le procès, hein, et la prison, c'est, je vous rappelle qu'on est aux Philippines et qu'en ce moment, c'est pas très drôle quand on est consommateur ou vendeur de drogue, même pour tout le monde, c'est pas très drôle, globalement, ou alors la liberté moyenne. Une caution, alors 50 000 pesos, au début c'est 100 000 pesos, et puis balancer aussi d'autres dealers, et à partir de là, eh ben, il va falloir trouver cet argent. Voilà pour l'histoire de Ma Rosa. Alors, au niveau de sa mise en scène, Brillante Mendoza s'est lâché. Il est caméra à l'épaule, nous retrouverons donc avec des plans séquences tournés au plus près des comédiens, des acteurs. On suit leur déplacement dans les moindres mouvements. Ça donne des plans heurtés, agités et flous.
Et on a l'impression de suivre en caméra cachée en fait ce qu'elle fait, hein, ce qu'ils vivent au jour le jour, elle et puis après ses enfants quand ils vont essayer de trouver de l'argent un peu.
Ouais, alors moi je la trouve pas cachée, je la trouve très très présente, ouais. Et très lourde cette caméra. J'ai l'impression plutôt d'avoir, une caméra de journaliste d'un média qui serait là en train de nous raconter la scène. Au début j'ai vraiment eu du mal, et puis ce flou, moi qui déteste le flou dans la photo, tu le sais, je ne peux pas apprécier ces moments où on se demande si le chef-op va finir par faire le point. Quand même un petit peu, hein, sur ce cendrier, quand même on espère qu'il le fasse et ça finit par venir. Bon, reste que ces plans très rapprochés quand même de ces acteurs, cette ambiance sous la pluie diluvienne, ces plans très sombres aussi, ben ça met une atmosphère quand même particulière.
Non, mais du coup on a l'impression que l'histoire est filmée en temps réel.
Alors, c'est pas tout à fait ça a été tourné chronologiquement.
Ouais. Ben alors déjà c'est bien, mais l'histoire elle doit durer un peu plus de 24 heures en fait, hein. Entre le moment où ils sont arrêtés, le moment où les enfants trouvent l'argent pour les
faire 48 heures, je crois, que ça fait tout.
Donc c'est un temps très court, mais on a l'impression que ça se passe en fait en 1h50 la durée du film. Hein, on est à fond dedans. Moi, je trouve que on est vraiment embarqué. Et c'est bon. Voilà.
Faut avoir envie. Moi, j'avais un petit peu envie de vomir quand même, parce que voilà.
Moi pas, mais faut aimer la caméra qui bouge tout le temps et dont les plans sont pas mal flous. Mais Après, il y a une force qui est quand même assez
forte. Il faut le dire. Et puis, c'est vrai que moi, je trouve que, et je ne vais rien vous révéler du tout, ne vous inquiétez pas, mais ce film vaut surtout, essentiellement, passionnément, pour ce plan de fin sur cette actrice Jacqueline Rosset, qui a eu le prix d'interprétation au Festival de Cannes, au dernier Festival de Cannes. Cette scène est absolument extraordinaire. On ne vous raconte rien, mais c'est extraordinaire. Mais
en fait, je pense qu'elle n'a pas eu le prix pour le film. Elle a eu le prix pour juste la scène finale, qui est énorme.
Ouais, alors, en plus, il faut savoir qu'il a, Mendoza, tourné avec des acteurs non professionnels et professionnels. Il n'avait pas de dialogue, pas de texte, donc on s'est retrouvé face à des acteurs qui improvisent, qui tout a été fait au dernier moment. Voilà, donc on a cette urgence qu'il a dans le film, qui est très très forte. Ça a été tourné dans les ruelles d'un quartier de Manille et dans un vrai commissariat.
Voilà, et un quartier pauvre.
Hein. Ouais,
enfin, je ne sais pas s'il y a des quartiers riches à Manille, mais... Ouais,
si, y en a, mais
ça fait pas envie, quoi, quand même. Hein.
Voilà, donc il l'a tourné dans un vrai commissariat. Et les journalistes lui ont demandé si les policiers étaient au courant. Et il dit que oui, mais qu'ils se sont pas reconnus dans les personnages. Donc, et puis que c'est un film qui allait être très peu vu aux Philippines. Donc finalement, ça les touchait pas trop qu'il a pu faire son film comme il voulait. Alors, donc on vous a dit ce qu'on pense de Marosa, de Brillante Mendoza,
qui est encore sur les écrans.
Qui est encore sur les écrans, que vous pouvez aller voir. Il faut parler aussi de Brillante Mendoza. J'en suis absolument désolé, mais on est bien obligé un petit peu de parler de ce cinéaste. Alors, il explique qu'il a trouvé avec ce président un allié.
Ah ouais, alors là, c'est le truc un peu triste, parce qu'il a fait plein de films, hein, donc pas mal de films qui ont eu du succès critique. Hein. Et puis là, d'un coup, il déclare son amour pour le président fou qu'il y a aux Philippines.
Ouais, il a filmé le premier discours à la nation du président. Depuis le festival de Cannes, il a tourné deux spots contre le narcotrafic. Il défend l'action gouvernementale. Alors il dit qu'il veut pas tuer les pauvres, mais au final il faut regarder le problème de la drogue de ce point de vue. Il trouve qu'il y a un gros problème et qu'il faut le résoudre, et que le tout nouveau chef viril des Philippines va mettre fin au deal et à la drogue dans le pays.
Enfin, on rappelle que la solution proposée par ce chef de l'État complètement dingue, c'est d'aller tuer les personnes de près ou de loin qui deal. Donc il incite au meurtre. Il a même dit lui-même en avoir tué, c'est-à-dire avoir assassiné des gens. Alors même si on fait un acte qui est répréhensible, qui est, personne ne mérite la peine de mort. Surtout, alors là, la peine de mort sans procès, hein, même sans jugement. Il arrive et il incite ça. Et c'est bizarre que ce cinéaste, qui semblait progressiste dans sa démarche, n'est pas du tout, en fait.
Ce qu'il faut se rendre compte, oui, juste pour revenir sur ce que tu disais sur les exécutions extrajudiciaires, on parlerait de 1800 personnes abattues par la police, 2600 autres mortes dans des circonstances qu'on ne connaît pas.
Ouais, ça fait 4000 morts.
Les forces de l'ordre et les milices qui sont dans la rue aujourd'hui, qui s'attaquent aux gros dealers, aux petits dealers, aux consommateurs. Et puis si t'es dans l'eau, tant pis pour toi. Puis si t'étais pas dans l'eau, tant pis pour toi quand même, parce que ça se passe comme ça. Brillante Mendoza, il dit qu'il n'a pas connaissance personnelle de la situation, donc il veut pas en parler de ces assassinats. Il faut savoir que avant l'arrivée de Rodrigo Duterte à la tête des Philippines, Mendoza était déjà devenu un cinéaste officiel. Donc en fait, il est dans la lignée quand même, hein. C'est-à-dire qu'il se met au service
des
puissants, c'est ça, et que il a trouvé un puissant qui a priori lui renvoie quelque chose politiquement et intellectuellement parlant, et donc il s'est mis tout simplement à son service, quelles qu'en soient les conséquences.
C'est hyper triste.
Ouais.
C'était un cinéaste de talent, et voilà qui.
Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, voilà.
Eh ben, il nous reste 2 minutes pour faire un petit agenda. Puisqu'il va se passer des choses dans les jours qui viennent. 9 et 10 décembre, c'est le All Colors Are Beautiful, organisé comme d'habitude par des antifascistes et contre le racisme, les discriminations, les violences policières et la répression judiciaire. Donc 4e festival de ce Lyon Antifa Fest, hein, c'est le nom officiel. Donc il y a des concerts et des conférences. Les conférences, c'est samedi prochain, on sera le 10 décembre. Donc à 15h à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, regard croisé sur l'homophobie et la transphobie en France et en Russie. C'est animé par The Big Tape. et quasiment en même temps, mais à un autre endroit, à 16h, c'est un bilan sur l'état des luttes au Kurdistan. C'est au Centre culturel Mésopotamie, 11 rue Mazagran, dans le 7e. Ça, c'est pour les conférences. Pour les concerts, il y a deux soirées, celle de demain soir, le vendredi 9 décembre, donc c'est au CCO. Il y a une soirée rap français avec Camélia Pandore et le Bon Nob, La Caution et Demi-Portion. Et samedi 10 décembre, toujours au CCO, on est plutôt autour du punk de La Hoye et du reggae orienté skinhead avec les Barners, 8 degrés 6 crew, que voilà, je sais pas si je prononce bien, et Angelic Upstarts. Tous ces concerts, donc, c'est au CCO de Villeurbanne. 18h30, l'ouverture des portes. Ça coûte 14€ pour un soir, 15€ sur place et 22€ les deux soirs. Voilà, pour ce 4e édition du Lyon Antifa. Alors j'ai aussi le vendredi à 18h30 à la Plume Noire une conférence formation contre la misogynie. Et pour terminer, moi, dans mon agenda, c'est samedi à la librairie Terre des Livres, rue de Marseille, dans le 7e, une rencontre avec deux auteurs de l'ouvrage qui s'appelle « Femmes dévoilées, des Algériennes en France à l'heure de la décolonisation ». C'est autour de ces femmes algériennes qui sont arrivées en France juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc les premières, peut-être pas les premières, mais enfin la première grosse vague d'arrivée de ces femmes algériennes et de comment elles ont vécu cette situation-là. Donc c'est à 15h, librairie Terre des Livres, samedi 10 décembre.
Eh ben moi j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine sans Laurent, mais j'aurai du coup le grand plaisir d'accueillir à nouveau Jean-Yves, mon ami de la causerie, pour venir animer cette émission. Et puis nous aurons le plaisir d'accueillir encore une fois nos petits camarades d'Acrimed Lyon. On parlera sondage, élection, on fera une petite critique des médias, hein, notre sauce comme on aime bien. Voilà, ça va être super. Sans toi.
D'accord, ok.
Je vous donne donc rendez-vous, chers auditeurs, auditrices, la semaine prochaine.
Et demain, 19h, pour le prochain Canu Info sur la plus rebelle des radios. Tout de suite, la petite cuillère.
Ciao, ciao.
Bye, bye.